Et après les lettres, les chiffres, ce soir, c'est le gomo.
C'est ça, beaucoup de chiffres dans ma chronique ce soir. Il y a quelques jours, l'écrivain Valentine Gobi publiait dans La Croix une chronique en forme de tribune dont la première phrase est « Les écrivains sont homo economicus ». Valentine Gobi a été pendant plusieurs années à la tête du Conseil permanent des écrivains, un rassemblement de syndicats et d'associations. On en avait entendu parler en particulier lors de l'ouverture du Salon du Livre 2015, c'était assez inédit, lorsque plusieurs centaines d'auteurs avaient manifesté sous sa bannière porte de Versailles pour faire entendre leur détresse. Car oui, les écrivains sont pauvres et surtout de plus en plus pauvres. Mediapart publiait en mars dernier une enquête sur leurs revenus, une enquête émanant de l'IREC. L'IREC, c'est une caisse de retraite complémentaire pour les artistes. Et cette enquête portait sur plus de 115 000 cotisants entre 1995 et 2013. La courbe graphique, je l'ai à côté de moi, est impressionnante, elle dégringole littéralement. Les revenus moyens des auteurs ont baissé de près de 30% en une vingtaine d'années. Effrayant quand on considère que les artistes concernés par ces chiffres sont ceux qui gagnent suffisamment de droits d'auteur pour bénéficier de prestations sociales, des privilégiés en quelque sorte. Alors parlons-en des droits d'auteur. Dans sa chronique, Valentine Gobi écrit qu'un auteur jeunesse reçoit 6 à 8% du prix de vente du livre, soit 80 centimes par exemple pour un livre qui coûte 10 euros. Pour un auteur de littérature dit adulte, c'est 8 à 10%, soit guère plus. La plupart des écrivains ne sont donc pas écrivains de métier. Quand ils n'ont pas carrément un autre travail, ils multiplient les activités dite paralittéraire, qui consiste le plus souvent en des ateliers d'écriture ou d'intervention en milieu scolaire. Dans le système français, les écrivains sont vraiment le parent pauvre du marché éditorial et l'évolution de ce marché est catastrophique. On commente souvent l'augmentation tous les ans du nombre de nouveautés lors des rentrées littéraires. En 10 ans, le nombre de livres publiés a plus que doublé. Les lecteurs sont certes plus nombreux, mais pas assez pour absorber cette énorme quantité de livres dont certains se perdent dans la nature. J'ai écrit hier à une amie qui a publié en 2012 un premier roman chez Flammarion. Depuis, elle a touché l'équivalent de 3 SMIC, m'a-t-elle dit, en droit d'auteur, auquel il faut ajouter 2 milliers d'euros d'avaloir. Elle va publier dans quelques jours un second ouvrage, qui est plutôt répertorié sciences humaines aux presses universitaires de France, et là, même pas d'avaloir. Elle est par ailleurs prof, comme un certain nombre de gens qui écrivent, et pour elle, l'écriture ne peut être qu'un hobby, m'a-t-elle dit. La question est-ce que c'est grave que l'écriture soit un hobby, ou est-ce que ça nuit à la littérature ?
Vaste question, Lucille, que vous posez là ce soir. Elisabeth Philippe, premier élément de réponse.
C'est pas un phénomène nouveau. Sur la question que vous posez, Lucille, il y avait Bernard Lahir qui a écrit un très grand livre. Voilà, sur une étude sociologique.
Condition
sur
littéraire.
Exactement, sur la condition littéraire.
Écrivain en région Rhône-Alpes.
Il me semble, oui. Voilà, et c'est vrai que moi j'avais fait une enquête en 2014 sur les rémunérations des écrivains, et déjà évidemment on parlait de la paupérisation et de la précarisation constante des auteurs. Andrew Wiley, le fameux agent américain, avait mis le feu aux poudres en évoquant le fait que les auteurs français étaient mal payés. C'était donc normal qu'ils aient affaire à un agent. Ce qu'on remarque surtout, c'est que les inégalités en fait s'accroissent entre auteurs. C'est-à-dire que vous parliez des droits d'auteur de 8 à 10%, mais quand un auteur vend beaucoup, ça peut aller jusqu'à 18%. Jean d'Ormesson est surnommé Monsieur 18%. Donc, ceux qui vendent plus sont payés plus. Enfin, voilà, on est vraiment dans un creusement des inégalités, bon, qui reflète finalement ce qui se passe dans tous les autres domaines. Mais, donc, c'est pas une nouveauté, mais ça s'aggrave.
Et Mediapart précisait dans l'article, et c'est vrai, j'ai pas eu la clé de cette précision-là, que c'était plus encore les femmes écrivains qui étaient de plus en plus paupérisées. Alors, pourquoi ça? On n'a pas de réponse dans l'enquête. Mais...
Bon,
c'est en fait.
Elisabeth Franck-Dumas.
Je crois qu'il y en a plus aussi. Non, j'avais lu. Alors au même moment, enfin au moment de l'enquête Mediapart, il y avait eu une énorme étude du CNIL qui revenait sur 30 années. Alors c'était les auteurs en général, c'est-à-dire qu'il y avait aussi auteurs de scénarios. Enfin, il y a les gens
qui vivent de leur plume.
Voilà, exactement. Qui
souhaiteraient vivre de leur plume.
Donc là, on parle de quelque chose d'un peu différent. Enfin, les chiffres, je crois qu'il y avait, c'était à peu près, je crois, 6000 personnes qui vivaient de leur plume, en littérature, disons, si on, en excluant tout ce qui était scénario, etc., et eux-mêmes touchaient 1,15 fois le SMIC. C'est-à-dire un SMIC, 1,15, c'est-à-dire pas grand-chose. Je crois que vous avez souligné un peu le problème, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de livres qui sortent, donc chaque livre se vend fatalement à moins d'exemplaires. Enfin, il y a une concentration pour les best-sellers, et puis je dirais que dans l'enveloppe dans l'enveloppe lambda du lecteur, il reste pas énormément d'argent, et il faut dépenser cet argent sur de plus en plus de livres. Donc, je crois que les chiffres répertoriés, enfin en mars dernier, c'était des livres qui se vendaient jadis à autour de 3000 exemplaires, voilà, des auteurs inconnus qui pouvaient espérer vendre 3000 exemplaires, aujourd'hui on vend 400. Et puis les auteurs voilà, un petit peu plus reconnus sont passés de 8000 à 1000. Donc là, on ne peut pas vivre avec ses droits d'auteur. Ouais.
Il n'y a plus de place en fait pour la littérature dite du milieu. C'est comme le cinéma du milieu. Ouais. C'est vraiment le sablier, la structure économique de l'édition. Maintenant, tout est concentration sur les best-sellers et puis au milieu, il n'y a plus grand chose.
Donc, y a ce phénomène de variable d'ajustement, c'est-à-dire que chaque écrivain vient au sein d'une maison d'édition pour compenser les mauvaises ventes des autres. Enfin, il y a une répartition des risques comme ça qui revient à peser sur les épaules des écrivains.
Lucille, comment ?
La question que je me posais, c'était, au-delà de la question du statut d'écrivain, du coup, est-ce que c'est un métier ou non, c'est cette précarisation des gens qui écrivent, est-ce que ça se ressent, est-ce que c'est reflété dans la manière d'écrire ou dans les sujets à aborder ou dans le style, enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui...
Je crois que c'était Slate qui avait fait une infographie sur les professions des personnages des romans, de la littérature, enfin des romans français. Oui. Et non, si on se fiait à cette infographie-là, il n'y avait pas forcément un reflet de la précarité des auteurs dans leurs personnages. Après, ça veut rien dire. Mais je ne sais pas de quelle manière ça pourrait se refléter dans les thèmes abordés, dans bon, la plus. Je crois que le type de personnage qui revenait le plus souvent, c'était celui de l'écrivain. Donc, à partir de là, est-ce que l'écrivain dépeint dans les romans est particulièrement précaire ? Ça, j'ai pas assez de recul pour.
Après, ce qui serait intéressant, c'est de demander aux écrivains si pour eux c'est un problème ou non d'avoir une deuxième profession, par exemple. Il y a beaucoup d'écrivains qui vous expliquent que non, enfin qui sont contents de faire autre chose, soit parce qu'ils ont un sentiment d'illégitimité, même des écrivains extrêmement reconnus d'ailleurs, qui pourraient totalement ne vivre que de leur plume, ont du mal à se dire qu'ils ne sont qu'écrivains, entre guillemets, je vois pas pourquoi le que, mais enfin, il y a quelque chose d'un petit peu insécurisant, et ou simplement qu'ils apprécient je sais pas, un contact avec d'autres plutôt qu'une vie extrêmement solitaire. Enfin, je pense que ça serait intéressant de leur demander. Voilà, c'est une obligation, mais pour certains, ça n'est pas qu'une contrainte.
Et au niveau financier, ce qui avait changé aussi, je crois qu'on en avait parlé l'an dernier, c'est que le Centre national du livre a vraiment exigé que les auteurs qui se déplacent dans les salons, pour faire des signatures, etc., touchent une rémunération.
Ça, c'est quand même. Il y avait eu une petite opposition, et je crois que c'est maintenant un minimum de 300 euros par intervention. Donc, ça peut aussi expliquer, c'est pas rien, et ça peut expliquer cette multiplication.
C'est la moindre des
choses, bien sûr, parce que c'est un travail.
Mais ça n'existait pas ou peu.
C'était peu reconnu.
C'est les plus vendeurs avaient forcément
exactement,
un peu d'argent.
D'autant qu'on n'est plus dans la simple signature. De plus en plus, ce sont des vraies performances, des lectures, tout ce qui se passe par exemple à la Maison de la Poésie. Donc il y a une véritable recréation qui évidemment mérite salaire, un vrai travail. Donc oui, ça c'est plus que normal, c'est la moindre des choses.
Oui, mais enfin, il a fallu taper du poing sur la table et menacer un petit peu quand même.
Et puis tous ces lieux, enfin toutes ces villes qui bénéficient voilà du tourisme, enfin des gens évidemment venus que ça draine, qui viennent assister à ces conférences, ça me semble absolument normal que la personne qui est à l'origine de toute cette construction, qui est l'écrivain, soit rémunérée pour sa présence.
Ça c'est un changement positif, mais c'est aussi lié à l'extrême précarité et la précarisation de plus en plus grande qui rend d'autant plus nécessaire ce type de défraiement. D'autres éléments là-dessus?
Non, mais je me posais aussi la question de la différence des droits d'auteur entre la littérature jeunesse et la littérature adulte. Bon, c'est un autre problème, mais c'est vrai que le contraste est saisissant et je ne comprends pas à quoi ça tient.
Est-ce qu'on a une réponse là-dessus? Entre 6 et
10%. Comparer les chiffres, je ne sais pas.
Bon.
Je ne sais pas.
À suivre pour un prochain petit salon, Lucille Comeau, un focus sur la littérature jeunesse et ses moyens économiques, du travail. Encore pour vous.